Ba.
Yes. Alors Jean-Claude m'a donné une commande. Maintenant que les vacances sont finies, on t'attend samedi prochain. Le thème de l'année est « Disciple Jésus ». Le sous-thème est « Aller de par le monde ». Matthieu 28, 16 à 19. J'ai hâte de t'entendre sur ce sujet qui m'intéresse. Salut. Voilà. Alors, c'était la commande. Alors, je me suis appliqué de trouver quelque chose à dire. « Aller de par le monde ». Alors, vous rappelez le texte, Matthieu 28, 16 à 19. C'est à la fin de l'évangile de saint Matthieu. Les 11 disciples, vous savez que Judas était au cimetière, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Hey, la gang des 11. Au moment de la fin de la vie de Jésus, certains eurent des doutes. Après l'avoir vu ressuscité, ils l'avaient vu, ils l'avaient touché, ils l'avaient vu manger, boire. Certains eurent des doutes. Je ne trouve pas ça drôle pour eux autres, mais il me semble que ça me rassure aussi pour les moments où je doute moi aussi, où j'ai des craintes. Verset 18, « Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir dans ses mains. » Verset 19, « Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » De toutes les nations. Ça doit bien comprendre le Québec aussi. Faites des disciples avec les Québécois. Courage! C'est notre mission ici. Alors, aller par le monde entier, qui va aller par le monde entier? Des disciples du Christ. C'est mon premier point. Je ne serai jamais missionnaire si je ne suis pas d'abord disciple du Christ, disciple de Jésus. Et comment je vais connaître Jésus? Par sa parole, par la parole de Dieu, par la révélation qui nous a été donnée. Donnée au peuple de Dieu. Ça, Vatican II nous a rappelé ça. La parole de Dieu a été donnée dans un peuple. Le peuple de Dieu, c'est Israël, et c'est l'Israël nouveau qu'est l'Église. Dieu parle à travers son peuple et dans son peuple. Il y a toujours eu et il y a encore des prophètes et des prophétesses. Si vous êtes à foi et partage, vous connaissez au moins un prophète. Jean Vanier en est un. Un prophète qui nous dit « Les petits, les pauvres sont grands. » Puis si on veut être des disciples du Christ, il faut reconnaître la grandeur des pauvres, des petits, des exclus, de ceux qu'on méprise, qu'on tient pour rien. Il faut que l'amour les fasse grandir, que l'amour les libère. Et si vous avez un peu d'expérience de foi et partage, vous savez à quel point c'est vrai. Puis à quel point il se produit ce qu'on pourrait quasiment appeler des miracles à l'arche, dans des communautés où on fait attention aux petits, on respecte les pauvres, les petits. Prophètes, pour notre époque, les prophètes sont jamais impeccables et parfaits. Alors on peut s'amuser à chercher des puces à Jean Vanier, comme on le fait pour... Il y a des avocats du diable, comme on dit, pour tous les bienheureux, pour tous les saints, on essaie de leur trouver des puces. Probablement qu'il y en a. On n'est pas saint parce qu'on est parfait. On est saint parce qu'on appartient à Dieu. Puis qu'on a accueilli Dieu. On a accueilli l'œuvre de Dieu dans notre vie. Alors, disciples, parce que la révélation donnée au peuple de Dieu, dans l'expérience de l'histoire, nous l'accueillons dans notre vie. Je l'accueille dans ma vie. Et tu dois dire la même chose. J'accepte d'être dans le peuple de Dieu, auquel Dieu parle par des prophètes et des prophétesses, des hommes et des femmes qu'on ne croit pas toujours du premier coup. Souvent, les prophètes et les prophétesses, on les envoie promener. Ouais, ça commence demain. Jésus va même dire, on tue les prophètes, puis après ça, on leur bâtit des tombeaux. Une fois qu'ils sont cadavres. Mais le message, on le reconnaît après leur mort, souvent. Regardez Jésus à Nazareth. On a voulu le tuer. Ça a fini de même à Nazareth. Ils ont voulu le tirer en bas de la montagne. Mais lui, se retournant, puis les regardant tout le monde dans les yeux, passa son chemin. En gang, il aurait été bien tiré en bas de la roche, mais un par un, personne n'osait le faire. Tout d'un coup, il y aurait quelque chose là. Mais ils ont pensé que c'était le fou. Robert Lebel, dans sa litanie de la Sainte Vierge, a parlé de Notre-Dame des mendiants. Je dis, même Robert Lebel y a oublié un point. Quand Marie était restée à Nazareth, quand Jésus prêchait un peu partout, puis qu'elle allait au puits chercher son eau, qu'est-ce qu'ils disaient les gens de Nazareth? Garde-là, la mère du fou. J'avais pas pensé que ça pourrait être dans la litanie de la Sainte Vierge. La mère du fou, ça devait pas être drôle pour Marie de Nazareth quand son garçon était prédicateur en Galilée itinérant, puis qu'on pensait à Nazareth que son gars était devenu fou. Il avait perdu la raison, la mère du fou. Je pense que ça remet en mesure les Saintes Vierges qui sont reines des cieux, puis habillées comme une impératrice de Byzance, avec des couronnes sur la tête, bien que trop grandes pour sa tête, des fois. L'humble Marie de Nazareth, elle aussi, obligée de garder dans son cœur la parole de Dieu au sujet de son fils, sans comprendre. Connaître Jésus, donc, par la parole de Dieu, la révélation donnée dans le peuple de Dieu. Jésus, l'envoyé du Père. Jésus, envoyé par le Père. C'est une décision de la Trinité que nous fêtons en fin de semaine. Jésus aussi s'envoie. C'est le Verbe qui, de toute éternité, exprime Dieu en dehors de Dieu. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la liturgie de la Trinité, pour le dimanche de la Trinité. En Dieu, il y a des relations. En Dieu même. C'est des relations de vie, d'amour. Et ces relations en Dieu provoquent d'autres relations. Dieu veut de l'autre que lui pour partager sa vie et son bonheur. Dieu veut de la création. Et dans cette création, un être particulier, l'être humain. Toi, moi, Dieu nous veut, il veut que nous existions, pour partager sa vie, son bonheur, dans une relation libre. Pas parce qu'on est contraint, pas parce qu'on est forcé. Je veux vivre avec toi. Veux-tu vivre avec moi? Il y a devant toi la vie ou la mort. Choisis donc la vie. Mais je peux choisir la mort. Puis il y en a qui choisissent la mort. Il y en a qui préparent des guerres. Il y en a qui font des guerres dans le but de tuer. Puis ils vont pas tuer des présidents puis les chefs des États. Ils vont tuer des pauvres, des papas, des mamans, des bébés. Choisis donc la vie. C'est dans ce temps-là qu'on est en communion avec Dieu puis qu'on ressemble à notre Dieu. Jésus est envoyé par le Père pour partager sa vie. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Chercher. On a oublié ça parfois. Jésus est bon, bienveillant et aimant comme Dieu le Père. Jésus, l'envoyé de Dieu, l'envoyé du Père. Jésus est en tout semblable à nous. En tout semblable à nous. Dans la prière eucharistique, quand on dit ça, on s'empresse d'ajouter « sauf le péché ». Mais quand je dis ça dans la messe, je me retiens toujours de dire « il n'a pas péché, mais il connaît nos tentations puis nos épreuves. S'il n'a pas péché, c'est parce qu'il a dit « non, je n'embarquerai pas là-dedans ». Mais il connaît nos tentations et nos épreuves. Il sait ce que c'est que d'être méconnu, méprisé, rejeté, d'être abandonné par ses proches, trahi par ses intimes. Il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est la faiblesse des humains. Il sait ce que c'est la bêtise de Judas. Jésus a beau lui dire, « Ah, Judas, là, oublie ça d'être mon René Angélil, là. Tu veux me mettre en marché, là. Tu veux que je rencontre le Sanhédrin. Ils veulent me tuer. » Judas dit, « Mais voyons donc, c'est tout du bon monde, ça. C'est du clergé. C'est du bon monde. Ça se peut pas. Ils veulent me tuer, Judas. Ben, moi, t'arranger ça, tu vas voir. Ce que t'as à faire, fais-le vite. » Jésus a laissé faire Judas, qui pensait être le René Angélil de Jésus. Il dit, je vais te faire paraître devant le Sanhédrin, ils vont t'entendre, puis là, ils vont reconnaître que ce que tu enseignes, c'est fort, c'est solide. Puis là, toutes les portes vont être ouvertes partout, tu vas voir. Non, Judas, laisse-moi faire. Il l'a fait. Jésus sait ce que c'est d'être trahi par un intime, d'être abandonné, incompris, méprisé, traité injustement, torturé et tué, puis présenté à la foule comme un exemple de mauvais citoyen, rejeté. Surtout, soyez pas comme ça. Un exemple pour tous ceux qui rentraient à Jérusalem pour la sainte fête de la Pâque. Herc! Et les passants pouvaient l'insulter. Lui, l'envoyé de Dieu, lui qui est venu chercher et sauver les pécheurs, qui a donné sa vie pour dire « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » En tout semblable à nous, je vais vous donner une leçon de christologie que j'ai reçue moi-même pendant mon premier voyage en Israël. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais dans ce temps-là, on ne respectait pas toutes les règles de sécurité dans les autobus. Alors, dans un autobus israélien habituel, entre Haïfa et Césarée, on m'avait laissé monter, même s'il n'y avait plus de place dans l'autobus. Alors, j'ai voyagé une soixantaine de kilomètres debout. J'étais à côté d'une femme juive qui parlait français. Elle a vite deviné que j'étais un prêtre. Je ne sais pas si c'était à 100 heures ou quoi, mais en tout cas, elle a deviné que j'étais un prêtre. Fait qu'on s'est mis à parler de la foi, de la religion, des relations entre juifs et chrétiens. Puis à un moment donné, elle me dit, « Mais vous êtes intelligent, vous êtes quelqu'un d'intéressant. Vous croyez vraiment ça, vous, que Jésus, c'était Dieu? » Oui. Puis là, elle se met à me tambouriner sur le sternum. Et je sens encore son doigt. Vous croyez vraiment ça, que Dieu faisait pipi, faisait caca? Jamais dans mes cours de théologie, on avait abordé ça. Jamais. L'abbé Laflamme n'avait jamais dit ça. Mais j'étais obligé de lui répondre, ben oui. Un vrai humain, en tout semblable à nous, faisait pipi, faisait caca, lui aussi. Un être humain comme toi et moi, en toute chose. Un charpentier, fils de charpentier, qui recevait ses commandes, qui faisait, puis qui livrait, puis qui essayait de se faire payer. Comme tous les charpentiers. Un bon gars qui connaissait la Bible parce qu'elle est à la synagogue, comme tous les enfants de Nazareth, ceux de son âge. Un bon gars, mais juste un bon gars de Nazareth. Un juif pieux, comme beaucoup d'autres pieux. Mais il ne s'allumait pas et ne s'éteignait pas. Il n'était pas comme ce calendrier, là. C'était pas comme une femme à barbe d'un Sacré-Cœur, là. Il y avait des calendriers du Sacré-Cœur. Je me disais, mais pour moi, c'est Thérèse qui a servi de modèle pour ça, là. Avec une belle barbe, là. Il avait juste ajouté une belle petite barbe féminine. Des beaux Sacré-Cœurs blancs, là. Pas bruns comme quelqu'un de la Méditerranée, là. Un beau Jésus blanc avec des belles grandes palettes américaines en avant, là. Puis des cheveux américains bien lisses, là. Non, en tout semblable aux autres nazaréens, en tout semblable aux autres juifs de son temps. Jésus, rédempteur. Jésus, rédempteur. Quel titre extraordinaire et qui nous rappelle à vous comme à moi que si je suis un disciple du Christ, si je suis un enfant de Dieu, c'est parce que Dieu a proposé à l'humanité, d'abord au peuple d'Israël, puis à l'Église, mais au monde entier, une relation d'alliance. Je veux vivre avec toi. Je te l'ai prouvé en te libérant de l'esclavage d'Égypte. Veux-tu vivre avec moi? Nos ancêtres ont répondu, oui. Si vous voulez vivre avec moi, voulez-vous respecter mes orientations? Voulez-vous respecter ma loi? Nos ancêtres ont répondu, oui. Si vous voulez vivre avec moi, puis respecter ma loi, êtes-vous prêt à faire un pacte avec moi, une convention, une alliance, un contrat d'alliance? Nos ancêtres ont répondu, oui. On avait un contrat d'alliance avec Dieu. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Tu seras notre Dieu et nous serons ton peuple. Oui. À condition que vous respectiez ma parole, puis que, par votre bonheur, vous me révéliez à toutes les nations du monde. On verra. Mais une relation d'alliance. Et dans l'alliance, il y a une dimension qui s'appelle la rédemption. Ça existe dans le couple, ceux qui sont mariés, là. Entre l'homme et la femme, il y a une relation d'alliance. Et ça veut dire, je serai toujours là pour toi. Si tu as des problèmes, je vais être là avec toi. Je me souviens, quand j'ai pris ma retraite de l'université, ça fait déjà 9 ans, j'avais des collègues d'autres facultés qui disaient, ah, là, c'est la retraite qui arrive enfin, on va-tu voyager, des croisières, des voyages, tout ça. Un des deux a un cancer. Adieu, croisière, voyage. Et la parole que j'entendais là, je me disais, mais quelle parole d'amour. On va lutter ensemble. Je serai toujours là pour toi. Je serai toujours là pour toi. On va lutter ensemble, puis on va vaincre le cancer. Tu n'appartiens pas à la mort, tu n'appartiens pas à la maladie. Quelle déclaration d'amour. On va lutter ensemble. Et vous voyez maintenant aux nouvelles assez régulièrement des gens qui sont kidnappés, qui sont enlevés. La femme ou les parents ou les enfants qui essaient de libérer leurs parents essaient de remuer ciel et terre, le gouvernement fédéral, l'ONU, des organismes internationaux pour dire il faut nous aider à libérer notre parent, notre fils, notre fille, notre mari, notre épouse. Il faut trouver une rançon. On va hypothéquer la maison plutôt pour aller chercher. Ça s'appelle la rédemption. Je vais tout faire. Je vais me mettre en misère s'il le faut pour aller te chercher, te libérer et te ramener. C'est ça la rédemption. Dans le cœur de Dieu qui envoie son Fils, qui vient chercher et sauver ce qui est perdu, il y a cette dimension-là. Tu n'appartiens pas au mal. Tu n'appartiens pas à tes péchés. Tu n'appartiens pas au crime que tu as fait. Tu n'appartiens pas au mal qu'on t'a fait. Tu n'appartiens pas au crime qu'on a commis contre toi, aux abus dont tu étais victime. Tu n'appartiens pas au mal que tu subis. Tu n'appartiens même pas aux maladies, aux infirmités, à la faiblesse, à la mort. Tu n'appartiens pas au mal, à aucun mal. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens au Christ qui t'a libéré puis qui a mis la rançon sur la table. Avez-vous un vice, un crime qui peut payer aussi cher que ce que Dieu a mis là? Il a donné son Fils, qui a donné sa vie. Alors, amenez-en des péchés puis des vices là, qui peuvent dire m'a égalé ça, cette mise-là. Amenez-en des abuseurs, des dictateurs, des criminels, des assassins qui peuvent gager aussi cher que ça. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Laurette Lepage, à un moment donné. Laurette, il y a un zinglindo, comme on dit en Haïti, un voleur qui rentre dans sa chambre. Ouais, tu peux prendre ma télévision si tu veux, là, je ne l'écoute pas. Mais tu peux prendre ma vie aussi, mais tu ne saurais pas quoi faire avec. Tu avais trouvé ça drôle. Tu peux prendre ma vie, mais tu ne saurais pas quoi faire avec. Mais c'est ça un assassin. Un assassin, il peut toujours vous tuer, puis après, il a pris votre vie, mais ça y servira à rien. Il est pogné avec un crime sans conscience, un cadavre à gérer. Mais alors que Dieu peut vous sauver de la mort, vous n'appartenez pas à la mort. C'est ça la rédemption. C'est le prix qui est mis là. Puis en préparant cette rencontre-là, je me suis dit, hey, dans Isaïe, on dit quelque chose, c'est souvent repris un peu dans les psaumes. Je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. C'est Isaïe 43, versets 3 à 5. Je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, je te rassemblerai de l'Occident, etc. En préparant ça, je me suis dit, mais pas drôle pour l'Égypte, tout ça. Comme si l'Égypte, ça valait rien. Mais si j'étais Égyptien, est-ce que j'aimerais ça, entendre dire ça? Pour toi, je vais donner l'Égypte.
Ouais.
Mais en y pensant bien, ce que Dieu dit à son petit peuple Israël, là, c'est que l'Égypte, c'est à peu près ce qu'il y a de plus grand dans le monde à l'époque. Ben, même cette grandeur-là, c'est rien à côté de toi. Tu as du prix à mes yeux. Tu vaux plus cher que toute la force et la puissance, la richesse de l'Égypte. Toi, tu as du prix pour moi. Fait qu'au lieu de regarder l'Égypte, on dit « Bon, pauvre Égypte! » On dirait qu'on a de la misère à regarder. Moi, j'avais de la misère à dire « Je vaux plus que l'Égypte! » L'Égypte, avec sa puissance à l'époque, tu vaux plus que l'Égypte. Tu as de la valeur pour Dieu. Dans le renouveau charismatique, on le chante, ce verset-là. Entendu ça souvent. « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Viens, tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. Hey, vous fréquentez du bon monde, vous autres? Gardons ça. Ben, c'est ça la rédemption. Tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Et vous qui êtes ici, puis qui êtes capable de chanter ça, là, si quelqu'un d'entre nous tout à l'heure était mal pris, on ferait tous notre possible pour essayer de les déprendre. Probablement que c'est spontané. On se dérangerait même. On serait obligé de dire, ben pas tout en même temps, là. On se bousculerait pour aider la personne. Je suis aimé de Dieu, j'ai du prix pour Dieu, je compte pour lui. C'est ça notre révélation comme disciple du Christ. Tant que je n'ai pas intégré ça, je ne pourrai pas être missionnaire. Et je vais commencer à être missionnaire parce que je vais aimer parce que je suis aimé. Parce que je connais l'amour que Dieu me porte, je peux commencer à aimer les autres. J'aime comme le Père aime le Fils et que le Fils nous aime comme il est aimé. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Toute une chaîne d'amour. On est aimé, désiré. Et nous vivons une relation avec Dieu qui est une relation filiale. Tu es pour nous un père et nous sommes pour toi tes fils et tes filles. Et la mission nous vient de cette relation filiale. Des fois, j'imagine Dieu comme un bon papa, puis je me jette dans ses bras. Et tout en m'embrassant, je ne sais pas comment il s'y prend, mais il me tient embrassé, puis il me tourne quand même. Puis là, je suis dos sur lui, puis il me dit, « Regarde, tu as des frères et des sœurs. » C'est parce qu'on a un père commun qu'on est des frères et des sœurs. Puis comme dans une famille, on ne s'est pas choisi. On est arrivés les uns après les autres. D'un gardon, une fille, un gars, deux ensemble, des jumeaux. Ah bon, eux autres y attirent toute l'attention. Les plus vieux sont négligés. Une autre fille, des jumelles. Ah ben là, c'est le bout. On ne s'est pas choisi, mais c'est là qu'on apprend à s'aimer. Puis il y a une fraternité. Pourquoi? Parce qu'on a la même mère, on a le même père. On est unis dans l'amour des parents. Alors, nous pouvons chanter maintenant. Pour prendre une pause, on peut se lever, ceux qui le désirent. Vous pouvez valser, ceux qui sont dans la chaise roulante. On va chanter « Allez, je vous envoie » de Robert Lebel. Merci. C'est pas du gin. Par le monde, vous êtes envoyés, vous aussi. Envoyés, vous quoi faire? Évangéliser, c'est bien beau, là. Envoyer, évangéliser. Vous savez que la première évangélisation, ça ne répond pas à une stratégie, à une planification. C'est votre être qui est une parole d'évangile. C'est votre bonheur qui est une parole d'évangile. C'est votre humanité qui fait que ceux qui vous croisent se demandent « Qu'est-ce que t'as que j'ai pas ? C'est quoi ton secret ? Comment ça se fait que t'es heureux ?» Maria est en chaise roulante, puis elle a l'air heureuse. Qu'est-ce qu'elle a que j'ai pas ? Comment ça se fait que peut être en chaise roulante, puis heureux ? Denis aussi, pas mal motorisé. Puis il a l'air heureux, le gars-là. Qu'est-ce qu'il y a que j'ai pas ? C'est quoi ton secret ? C'est quoi ton bonheur ? C'est dans nos yeux que l'Évangile est annoncé d'abord. Je ne peux jamais regarder un être humain avec haine, avec mépris, même du monde méprisable, détestable, des malfaisants et des malveillants. Je ne peux pas m'empêcher de les regarder pour dire « t'es pas faite pour ça ». T'es pas faite pour être un criminel, t'es pas faite pour être un méchant, t'es pas faite pour être un fraudeur, t'es pas faite pour être bête. T'es pas faite pour ça, ça paraît dans mes yeux. Ça c'est bête, ça c'est méchant, mais toi t'es pas faite pour être bête. T'es pas faite pour être méchant, tu fais des affaires méchantes, mais t'es pas faite pour être méchant. Dans nos yeux, je suis envoyé juste parce que j'appartiens à Dieu, je suis en mission. Mon bonheur d'appartenir à Dieu. Je suis envoyé pour aimer, justement. La première mission, c'est d'aimer. Et aimer, ça veut dire, je veux que tu vives. Je veux que tu existes et que tu vives pleinement. Je veux que tu sois un être autonome, libre, fier, fécond, heureux, sain ou réussi selon le plan de Dieu. Et je veux que tu sois délivré de tout mal, de tes bêtises, des bêtises qu'on t'a faites, des faiblesses de la nature et même de la mort. Je veux que tu sois complètement humain selon le plan de Dieu. Évidemment que tu sois avec lui en vie éternelle, mais le plan de Dieu, c'est d'abord sur la terre qu'on le vit. Maintenant, cet après-midi, là, au CRDPQ, comment ça s'appelle de même, là? Au Centre François, à l'IRDPQ, au Centre François Charon, on va dire entre nous autres. Dieu veut qu'on soit ici maintenant, puis qu'on soit heureux maintenant, là. Parce qu'on est heureux d'être aimé et qu'on ne peut pas faire autrement qu'aimer. Je veux que l'autre vive pleinement. Puis je dois tout faire pour favoriser ça et rien faire qui soit contre ça. Fait que je vais être plutôt sympathique. C'est comme ça que j'évangélise avant d'avoir parlé. Il y a une joke à propos de François d'Assise, on dit ça. Il faut toujours évangéliser. Parfois avec des mots. On dit ça que... Je ne sais pas si c'est vrai, mais on disait ça de François. Parfois avec des mots. On évangélise toujours. Je pense que François avait compris que tu évangélises juste en regardant les autres. En étant toi-même évangélisé. Alors, le témoignage de votre joie, de votre bonheur. Mais une autre caractéristique qui est remarquable pour tout le monde, c'est que vous ne pouvez pas vous empêcher d'être bienveillant et bienfaisant. Vous êtes trop de même pour être autrement. Vous êtes toujours bienveillant et bienfaisant. Vous voulez du bien, pas juste au monde, même aux chats, à la limite aux souris. Vous voulez, il y a des trappes à souris pour les attraper vivantes. Je connais une personne qui fait ça. Elle les attrape vivantes, puis elle va les relâcher dans le bois plus loin. Elle veut pas tuer une souris. Moi, j'y avais donné des souris, paf, qu'elle trappait, puis elle leur cassait la colonne vertébrale, là. Après ça, tu la mets à la poubelle. Non. Le genre de femme qui tue pas une mouche, là. Qui rouvre la fenêtre pour que la mouche sorte, là. Ben, c'est... qu'est-ce qu'on ferait pas pour sauver une mouche, hein? Bienveillante jusque-là, puis bienfaisante jusque-là. Le respect de la vie. Ben, on est de même. On trouve un papier à terre, quelqu'un qui s'est pris une pastille, puis le papier tombe à terre. Puis je ramasse le papier. Tu cherches une poubelle, t'es pogné parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Tu cherches une poubelle. La personne qui l'a échappé, là, ne savait même pas qu'il y avait un papier sur sa pastille. Ben, bienveillante et bienfaisante. Dans des grandes choses comme dans des petites choses. Trop de même pour être autrement. Et la relation fraternelle avec tous les humains, même les ennemis, même les incroyants, même ceux qui nous parlent à la radio, à la télévision de la grande noirceur de l'Église catholique, la grande noirceur des années 50 et 60, même des savants, des intellectuels, qui sont d'une ignorance indigne d'un intellectuel québécois, même incroyant, juste au plan intellectuel. Ben voyons donc la grande noirceur. Qu'est-ce qu'on aurait comme école, comme hôpital, comme services sociaux s'il n'y avait pas eu l'Église des années 30, même 19e siècle, 20e siècle, s'il n'y avait pas eu... Des femmes surtout! Quand on raconte l'histoire de l'Église, on voit beaucoup de monseigneur puis de monsieur. Mais enlever les femmes, là, il n'y a pas beaucoup d'écoles, il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux. Il n'y a pas beaucoup de services sociaux. C'est aux femmes qu'on doit ça. Puis ils n'étaient pas payés. Même celles qui avaient des doctorats, là, ou qui avaient des spécialités, ils étaient habillés, logés, nourris comme les autres. Puis on a travaillé, ils ont travaillé, ces femmes-là, pour qu'adviennent des pédagogies, des soins de santé, des services sociaux, des thérapies. C'est toutes des pionnières. Tu vas appeler ça grande noirceur? Faut-tu être épais? Non, pardon. Faut aimer nos ennemis. Faut-il avoir manqué l'occasion de s'instruire? De s'informer? Ben oui. Mais on a mis un sticker là-dessus, le grande noirceur. Puis on a hérité de tout ça, puis on pense qu'on s'est donné ça en 1960. Ah oui! Non. La bienveillance, on l'a vu aussi dans ces années-là. Dans les années 70, j'étudiais à Rome. Le Collège canadien avait été vendu. On louait des étages au Collège tchécoslovaque. La Tchécoslovaquie était communiste à l'époque. Alors, tous les séminaristes tchécoslovaques qui étaient là étaient des réfugiés. Ils avaient fui la Tchécoslovaquie. Puis là, ils essayaient de me tirer les larmes. J'étais assez copain avec eux autres. Ils essayaient de me tirer les larmes en nous racontant comment les sœurs avaient été persécutées en Tchécoslovaquie. Mais là, il fallait comprendre l'histoire de la Tchécoslovaquie. Les sœurs étaient des seigneuresses. Ils étaient propriétaires de grands domaines. Et les paysans n'étaient jamais propriétaires de leurs fonds de terre. Ils étaient comme loués. Et chaque année, ils devaient fournir une redevance au monastère. C'est seulement des femmes nobles qui étaient nommées qui rentraient dans ce couvent-là. Alors, c'était des seigneuresses qui étaient propriétaires du fonds de terre, puis ils recevaient les redevances. Puis il y avait des employés pour leurs soins, leurs services. Quand les communistes sont arrivés, ils se sont emparés de tout ça, et ont dit aux sœurs, vous pouvez garder votre maison, un jardin pour vous autres, un verger, tout ce qu'il vous faut pour gagner votre vie. Salut! Mais les redevances, c'était fini, là. Mais là, le pire, on pensait que je serais très ému par ça. Au moment de la cueillette des poires et des pêches, le camion passait dans le village puis ramassait toutes les femmes pour aller travailler à conserverie. Ben, le camion s'arrête au couvent des sœurs. Ils ont traité les sœurs comme des femmes. Fallait que les sœurs aillent travailler à conserverie aussi. Mais pouvez-vous imaginer ça? Obligées de peler des pêches qui avaient été ébouillantées, les couper, enlever le noyau, mettre ça dans des boîtes de conserve. Ah! Mais je n'étais pas ému. Il me disait, chez nous, les sœurs grises ont pratiquement donné leur hôpital, puis sont restées pour travailler dans l'hôpital, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la retraite. Puis j'ai vu, moi j'avais travaillé à Saint-Michel-Archange déjà. La sœur qui gérait ça avait un cocheron en plein milieu de l'hôpital, même pas de fenêtre dans son bureau. Elle gérait toute Saint-Michel-Archange, à elle toute seule. Quand c'est passé à l'État, ils ont pris un étage pour faire des bureaux, rien que des gars qui géraient ça, puis il y avait des assistants, puis des assistantes, puis des secrétaires, tout un étage, avec l'air climatisé en plus, quand même. Puis les sœurs sont restées là comme infirmières, comme préposées aux malades, jusqu'à leur retraite. Puis c'était pareil dans nos écoles. Tu remettais les collèges à l'État, ça venait des cégeps de faire demain. Mais. Oh, c'est pas l'évacuation, voilà, c'est correct. Alors, on. C'est un code? Ça veut dire quoi, ça? Fait qu'on n'a pas à s'inquiéter. Bon, en tout cas, alors je continue pareil au cas où. S'il faut évacuer, ils vont venir nous le dire. Ça vous est jamais arrivé, hein? Eh bien, une expérience dans la vie. Alors,
je vais commencer par le couplet 1, pour te parler de notre amour.
Correct. Bien, alors, ici, bon, j'arrive à la fin quand même, ici, l'Église a montré qu'elle était servante. Quoi qu'on dise de la grande noirceur, les femmes surtout, les femmes d'Église, les femmes qui ont donné leur vie, ont montré qu'elles étaient servantes du peuple de Dieu ici. Puis on a fait la preuve jusqu'au bout. On a donné des institutions. Puis je me souviens, au moment, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, les sœurs du bon pasteur avaient été faites une mauvaise, par leur comptable, ils avaient fait un mauvais placement à Montréal, ils avaient perdu plusieurs millions, puis les gens disaient, ça n'a pas de bon sens, les sœurs du bon pasteur, ils ont des millions! Ben, toute la communauté des sœurs du bon pasteur, ça valait l'évaluation du village de Saint-Zacharie dans Dorchester. Le village de Saint-Zacharie, ça avait la même valeur que la propriété des sœurs du bon pasteur, qui avaient toutes leurs sœurs malades à soigner, puis tout ça, là, jusqu'en fin de vie, sans revenu. Alors, non, l'Église ici a fait la preuve qu'elle était servante. Puis, entre nous, on peut se le dire, mais on ne l'entendra pas à Radio-Canada. Puis encore aujourd'hui, ceux qui font des reportages sont comme étonnés de voir que dans les budgets de communauté, la bienveillance, les dons, c'est un aspect très important de leur budget. Il y a beaucoup d'organismes qui survivent grâce aux dons des sœurs. Ah bon? Puis là, les sœurs qui voient la fin arriver planifient pour que, après leur disparition, il y a des fondations qui continuent leur bienveillance, même si les sœurs ne sont plus là. Que les œuvres de charité, les asiles, les maisons d'accueil pour les femmes battues, tout ça, que ça puisse continuer quand il n'y aura plus de sœurs. Quand la dernière sera morte, ça va encore continuer dans l'avenir. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui organisent les affaires de même, hein, qui veulent que l'Aube-Rivière continue à vivre quand ils ne seront plus là. Alors, bienveillance et bienfaisance. et une relation fraternelle même avec les ennemis. Pourquoi? Parce que même mon ennemi qui me veut du mal puis qui m'en fait, il est aimé de Dieu, donc de moi aussi. Je veux que tu vives libéré de ta méchanceté. Même les incroyants qui pensent qu'il n'y a pas de Dieu puis que moi je suis malade, il faudrait que j'aie une thérapie pour me libérer de mon idée de Dieu, là. Nettoie-toi de ça. Nous autres, on est émancipés. Il faudrait que tu sois émancipé, toi aussi, là. Mais même les incroyants sont aimés de Dieu et de moi aussi. Je veux que tu vives pleinement. Puis si tu ne crois pas, j'espère que tu vas rencontrer le Seigneur dans ta vie un jour. Si tu peux le connaître par moi, tant mieux. Mais pas sûr que j'y arrive. Et je termine par là. J'évangélise pas juste en parlant de l'Évangile puis de Jésus, mais en faisant goûter le monde que Dieu veut, faire goûter un monde de justice, de vérité, d'amour, de partage, de solidarité. Ça s'appelle le monde que Dieu veut, ça s'appelle le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu, il n'est jamais arrivé parfaitement, puis il n'arrivera jamais parfaitement tant qu'on ne sera pas dans la vie éternelle. Mais pour le moment, le royaume de Dieu, il est déjà là, et on le goûte à chaque fois qu'il y a entraide, solidarité, pardon, miséricorde, réconciliation, travail pour apaiser les conflits, pour solutionner. Là, le royaume de Dieu avance. Et il retarde à chaque fois qu'on se raidit, qu'on refuse d'étudier la réconciliation, d'accepter des migrants, des demandeurs d'asile. À chaque fois qu'on se raidit là-dessus, qu'on dit « on va en accepter 40 000 », »,« on va en accepter 40 000 », il y a 1800 ou 18 000 demandes en attente, on va tout scraper ça, on remet le compteur à zéro. Qui recommence? À chaque fois qu'on dit ça, là, le règne de Dieu retarde. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des demandes à l'autre bout, plein d'espérance. Puis là, tu traites ça comme un rien. Pouf! Qui t'es, toi, pour faire ça? On va accepter 40 000 personnes. Ah oui? Ils sont 70 millions de demandeurs d'asile. Tu vas choisir là-dedans les plus meilleurs, là? Hey! 200 000 pour le Canada, là, le programme qu'on annonce pour les prochaines élections. 200 000, ben oui, mais qui c'est que tu vas accueillir? Ton semblable? Le royaume de Dieu n'arrive pas. Le royaume de Dieu va arriver quand on est capable de dire « Nous sommes capables d'accueillir encore plus ». Et dans notre histoire québécoise, nous avons accueilli beaucoup de monde. On a accueilli les Anglais qui nous ont dominés. Il a fallu vivre avec. On a bien vécu sous le régime anglais. Ils nous ont causé bien des petits problèmes. On a vécu avec. On a intégré des Irlandais. Louis O'Neill, mon collègue à l'université, Louis O'Neill est un Irlandais. Et il parlait l'anglais avec un fort accent français. Il était devenu comme un Canadien français. Il était même péquiste. Un Irish. Un Irlandais. On a accueilli des Grecs, des Italiens. On a pris de la pizza. On mange de la pizza, du spaghetti. On a accueilli ça. On a accueilli des Polonais. On a accueilli des Ukrainiens. On les a intégrés. Des fois, on oublie que Vittorio, ça venait d'Italie, ça, Vittorio, on va les lire, maire du village. On fait goûter au monde que Dieu veut. C'est une expérience positive. Et c'est comme ça qu'on va évangéliser. Qu'on va annoncer le monde que Dieu veut parce qu'il nous l'a révélé. Et ça revient en un mot sur notre bonheur. Voilà ce que Marie de l'Incarnation est venue apporter ici. Quand le collège Mérissy a fêté je ne sais pas quelle année, de la fondation des Ursulines, il y a eu un colloque, puis on a dit l'héritage des Ursulines, c'est les valeurs. Ah, moi j'ai protesté. Ah non, Marie de l'Incarnation n'est pas venue apporter des valeurs ici. Elle est venue apporter l'Évangile, elle est venue apporter l'amour. Et l'amour fait la promotion de valeurs. Enlever l'amour, regardez bien sécher les valeurs. C'est l'amour qui entretient les valeurs, puis qui les met en place. Marie de l'Incarnation est venue apporter l'amour. Ben, Robert Lebel nous aide à la chanter. On peut se lever. Je vais terminer.
Qui meurt, je ne saurais vous dire.